Bienvenue en Tête à tête avec la science, le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique, tout cela pour faciliter le transport des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'amplifier la voix des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante au doctorat, et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bienvenue à ce 31e épisode et aussi bonne rentrée scolaire un peu tardive au podcast. Aujourd'hui, j'ai eu le très grand plaisir de discuter avec Benoît Lamarche, professeur titulaire à l'École de nutrition de l'Université Laval, chercheur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, ainsi que directeur scientifique du Centre Nutrition, Santé et Société. Au cours de l'épisode, on parle de son parcours comme scientifique ainsi que de ses nombreux projets de recherche très variés, tels que l'étude Nutri-Québec, l'état de la science concernant la consommation de gras saturés sur la santé, de l'adhérence des Canadiens et Canadiennes aux recommandations nutritionnelles, ainsi que de l'effet distinctif du EPA et DHA, soit deux formes d'oméga-3, et aussi au sens plus large, qu'est-ce que ça implique de recevoir du financement de l'industrie alimentaire pour des projets de recherche. Bon, j'ai évidemment mon gros biais de nutritionniste, mais cet épisode est probablement dans le top 5 de mes préférés. Toute la discussion était vraiment de la musique à mes oreilles et du bonbon pour mon cœur de scientifique. Benoît Lamarche est vraiment un chercheur et un professeur passionné, hyper intéressant à écouter. Et puis, bien, sans plus attendre, je vous laisse à votre tour apprécier la discussion. Bonne écoute! Donc, on est parti. Docteur Benoît Lamarche, bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Super, je suis bien contente de vous recevoir ce matin. En préparant l'entrevue, c'était assez difficile, on dirait, de me brancher sur certains sujets. Je pense que vous avez fait tellement de travaux sur plein de trucs intéressants qu'on pourrait parler pendant des heures, mais j'ai bien hâte de prendre le temps de jaser de vos thématiques de recherche avec vous. Donc, en commençant, voudriez-vous me parler de votre parcours? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu à la position où vous êtes aujourd'hui, puis ce qui fait que vous vous intéressez à vos thématiques de recherche actuelles?
Oui, c'est pas un parcours linéaire. Moi, j'ai fait mon bac en biochimie à l'Université Laval, puis je m'intéressais beaucoup à la physiologie de l'effort, parce que je faisais du patin de vitesse dans ma jeunesse, puis je m'intéressais à la physiologie de l'exercice. Puis la biochimie, c'était comme, après mon cégep, là, des cours de chimie organique et tout ça, j'avais comme été attiré par ça. Puis, durant mon bac, j'ai pas eu beaucoup de cours qui m'avaient allumé tant que ça, finalement. Comme ça arrive des fois dans certains bacs, on se fait une idée préconçue. Puis, bon, bien, j'ai été travailler dans un laboratoire durant un été, le laboratoire de Jean-Pierre Després en kinésiologie à l'Université Laval. Puis là, j'ai commencé à travailler plus sur l'exercice, mais les bienfaits de l'exercice sur la santé cardio-métabolique. Puis dans son laboratoire, bien là, j'ai commencé à voir que la physiologie de l'effort, c'était le fun, mais il n'y avait pas beaucoup d'espoir là, de faire une carrière là-dedans, tandis qu'en activité physique santé, il y avait plus de potentiel. Fait que j'ai fait ma maîtrise avec Jean-Pierre en activité physique sur les effets bénéfiques de l'exercice sur la perte de poids, la santé cardio-métabolique et tout ça. J'ai continué au doctorat, mais là, en m'intéressant un peu plus, toujours aux lipoprotéines, cholestérol, cardio-métabolisme, mais plus dans un contexte épidémiologique. Alors là, on avait accès à une grande étude prospective qui s'appelle l'étude cardiovasculaire de Québec. On avait plusieurs échantillons sanguins dans des congélateurs. On a sorti ça, on a fait plein de mesures. Fait que là, je me suis lancé plus dans l'épidémiologie cardio-métabolique et cardiovasculaire. Fait que c'était comme, je suis passé de l'activité physique plus à l'épidémiologie, cholestérol, lipides, etc. Pour ensuite m'en aller en postdoc à Toronto. Puis là, moi, je voulais faire du métabolisme des lipoprotéines, un peu ce que toi, tu fais dans ton doctorat. Donc, j'étais allé dans le laboratoire de Gary Lewis, qui était un jeune chercheur clinicien endocrinologue à ce moment-là, à la fin des années 90. Puis, il m'avait promis là, qu'on ferait des études chez l'humain de lipoprotéines, métabolisme avec des traceurs, tout ça. Fait que j'étais bien excité. Fait qu'on a fait ça pendant 2 ans. Puis, mais j'avais pas fait jamais encore de nutrition depuis le début de ma formation. Mais j'ai été recruté par le département de nutrition à l'Université Laval. Fait qu'il y avait un peu la foi et l'espoir qu'il allait se passer quelque chose dans ce domaine-là. Mais bon, j'avais un bon dossier, etc. Puis, et comme de fait, d'être exposé à une communauté de chercheurs, chercheuses qui étaient en train de se construire à ce moment-là à l'Université Laval. Dans le domaine de la nutrition, des sciences des aliments et tout ça, il y avait l'INAF, l'Institut sur la nutrition des aliments fonctionnels, qui venait d'être créé. Ça m'a comme tranquillement amené vers exporter mon expertise en métabolisme dans le domaine de la nutrition. Je me suis mis à faire des études en nutrition. On va en parler, là, les gras saturés, les oméga-3, les diètes, toutes sortes de diètes. Et donc là, j'ai fait le mélange, je suis allé chercher les expertises de collègues en nutrition, je me suis éduqué tranquillement pour finalement devenir un chercheur vraiment en nutrition. Puis pour finir l'histoire, ben, évidemment, là, j'ai recollé tous ces morceaux-là parce que je suis revenu un peu à l'épidémiologie, où là, je m'intéresse aux aspects plus sociétaux de l'alimentation, de ses bienfaits et de ses mauvais faits sur la santé des humains.
Puis, est-ce que vous aviez toujours eu en tête de devenir chercheur, professeur? Parce que, bon, c'est la fameuse question qu'on nous pose toujours au doctorat. Bon, qu'est-ce que tu vas faire après? Puis, il y a des gens que c'est assez clair, ils s'orientent vers là, puis d'autres que ça arrive un peu de façon circonstancielle. Donc, pour vous, comment ça s'est
Ouais.
passé?
Mes étudiants ne me croient pas quand on jase de ça, parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question, rendu à la fin, même au début, à la fin du doctorat, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je ne voulais pas être chercheur. Puis quand je dis ça à mes étudiants, ils ne me croient pas, parce qu'ils me regardent aller et ils disent, ouais, ça se peut pas. J'étais comme tout le monde. Je me disais, bon, je veux-tu vraiment faire cette carrière-là? C'est quand même exigeant. Pour plusieurs des sacrifices, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Et puis, vers la fin de mon doctorat, je voulais, moi, être comme un professionnel de recherche. Là. Je trouvais ça comme ça aurait été assez pour moi. Puis, j'aurais été en recherche. J'aime beaucoup la recherche, mais sans les responsabilités et toute la recherche de financement, le stress, la pression. Mais à un an de la fin de mon doctorat, à un moment donné, j'ai senti que j'étais interpellé, puis que je me sentais capable de faire ça. Alors là, j'ai fait une demande en postdoc pour poursuivre la démarche. Puis je suis sur mon X, là. Je veux dire, oui, c'est une carrière difficile. Il y a des défis, il y a des enjeux, mais je suis quand même assez content et fier du parcours que j'ai. Je pense que je suis pas devenu fou encore. Puis
Puis avec les années que vous avez mentionnées, ça fait quand même un certain temps que vous êtes dans le domaine, puis vous semblez assez sain d'esprit, puis toujours bien épanoui dans ce que
Ben
vous faites.
oui, puis encore là, tu sais, moi je dirige le centre de recherche Nutris, là, qui est une des entités, un centre de recherche FRQS à l'Université Laval. Bon, je t'ai impliqué un peu dans toutes sortes d'affaires, tout ça, mais une des choses dont je suis assez fier, c'est d'avoir réussi à garder un certain équilibre là-dedans. Puis j'essaie de convaincre ceux et celles qui souhaitent peut-être faire cette carrière-là, de les convaincre que c'est possible d'être équilibré. Mais faut tenir notre bout, par exemple, parce que c'est facile de se laisser emporter puis de vouloir en faire plus. Puis on regarde toujours ceux qui en font plus que nous, fait qu'on essaie d'en faire autant, mais on regarde pas des fois qu'il y en a qui en font moins. Puis ils ont des super belles carrières aussi, ils font différemment, etc. Alors c'est possible de le faire, mais oui, ça a des défis. Mais moi, je considère, tu sais, malgré une vie quand même assez intense, que c'est un équilibre qui est apprécié puis qui va bien jusqu'à maintenant.
Puis je veux revenir, vous avez mentionné au tout début que vous avez fait du patinage de vitesse dans vos jeunes années. Vous avez été aux Jeux olympiques, si je ne me trompe pas.
Ouais, deux
C'est quand
fois en
même deux fois.
84 et 88, ouais.
Ouais, c'est quand même pas rien. Puis je sais que des fois, il y a beaucoup de parallèles entre le sport bon, à haut niveau, puis ensuite, bon, des habiletés des gens qui deviennent entrepreneurs ou qui ont des carrières justement très demandantes. Est-ce que vous trouvez que la discipline, la rigueur que le patin vous a demandé dans ces années-là vous a peut-être donné des outils, des compétences que vous êtes capable d'appliquer dans votre vie de chercheur aujourd'hui?
Sûrement, mais je pense aussi que c'est surtout c'est des traits de personnalité. T'sais, moi, j'aime ça, la compétition. Je compétitionne encore à certains moments de ma vie, là. Je fais des sortes de compétitions. J'aime le défi de la compétition. Puis la recherche, ben, c'est une compétition. Je veux dire, on soumet des demandes de subvention. Les étudiants soumettent des demandes de bourse. Fait qu'on est toujours là-dedans. Alors, j'ai un certain plaisir à essayer de relever des défis, pas de battre les autres, mais de faire le meilleur produit possible, puis d'être dans un environnement compétitif. Des fois, tu gagnes, des fois, tu gagnes pas, des fois, ça fait très mal. Oui, le sport, mais je pense que j'avais la personnalité un peu déjà préprogrammée pour être assez à l'aise dans un milieu comme ça. Puis ça s'est manifesté dans le sport quand j'étais plus jeune, puis maintenant plus en tant que chercheur.
Oh non, ça c'est vrai que j'avoue, j'avais l'aspect de compétition qu'on peut avoir dans le sport si on est bien capable de la gérer ou d'y prendre plaisir à un certain point. C'est définitivement quelque chose qui peut aider pour une carrière de
C'est pas un
chercheur.
prérequis, par contre, on peut être très bon en recherche, même si on n'a pas fait de sport de haut niveau. Oui, exact.
Super, ben c'est, en tout cas, c'est bien intéressant de savoir que moi, ça m'avait bien impressionné quand j'avais entendu que vous aviez été déjà aux Jeux Olympiques 2 fois. C'est quand même c'est une belle expérience.
Oui, vraiment.
Puis, écoutez, on pourrait partir dans toutes sortes de directions pour parler de vos projets. Je ne sais pas si vous, dans vos projets, il y en a un que vous avez envie de parler en particulier. Moi, le premier que j'avais dans ma liste, c'était l'étude Nutri-Québec qui est en cours depuis, je crois, 2018, 2019, 2020
Ouais,
peut-être. Puis,
2019, 20, ouais.
Donc, si ça vous tente de commencer à parler de ça, c'est une des études que vous avez en cours que je trouve qui est
Ouais.
super intéressante.
Il n'y a pas beaucoup de projets que j'ai faits qui m'ont déçu ou tu sais, qui sont moins intéressants pour moi, là. Puis ils ont chacun leur histoire. Puis en fait, le projet au sens large qui me rend le plus fier, là, je dirais, c'est pas un projet de recherche. Ça peut faire un rôle à cliché un peu de dire ça, puis un peu têteux, là, mais c'est vraiment vrai. C'est l'accompagnement des étudiants gradués. Là, tu sais, ça fait 25 ans que je fais ça. Puis c'est tellement une richesse de pouvoir contribuer à ça. Puis ça, c'est un projet en soi. Quand on commence une carrière de chercheur, on veut publier, on veut nos subventions, etc. Puis là, on a des étudiants parce qu'il faut avoir des étudiants, etc. Puis à un moment donné, on se rend compte que ce qui reste le plus, finalement, dans tout cet effort-là, c'est notre petite contribution à chacun des parcours individuels qu'on accompagne. Fait que ça, c'est mon projet qui me rend le plus fier, là. T'sais, c'est l'accompagnement de voir des jeunes. On parlait en début d'entrevue, avant de s'enregistrer, là, que tu as été exposé à certains de mes anciens étudiants durant ton bac à Ottawa. C'est une fierté d'entendre ça, là, de dire, OK, ces gens-là redonnent, ces gens-là sont appréciés, etc. Donc, on a une petite part là-dedans. Puis ça, c'est le plus beau projet. Pour moi, le plus beau projet de chercheur dont je suis fier, en tout
Oui, mais c'est,
cas.
on parlait de Jean-François Mauger tantôt, puis si j'ai été vers un doc en lipoprotéines, c'est parce que j'ai tripé sur la façon dont il enseignait au bac. Vous avez connu aussi, je crois, Bénédicte Fontaine-Bisson, qui
Oui.
est à l'université. C'est avec elle que j'ai appris à faire la recherche au bac un peu. Donc, c'est
Ouais.
ça. Les chercheurs nous marquent beaucoup, puis c'est grâce à ces gens-là que, en tout cas, que moi, je fais le parcours que je fais actuellement. Donc, c'est certain que c'est
Ouais.
très précieux.
Ben c'est ça, puis on le prend pour acquis au tôt dans la carrière, mais cette influence-là, c'est une grande fierté où finalement, quand on regarde en arrière un peu, puis on se dit, bon, ben on a façonné un peu ces gens-là, on les a aidés à évoluer, acquérir certaines compétences, peut-être influencer leur personnalité aussi un peu. Donc, ça, c'est disons, en termes de contribution puis de fierté, c'est probablement le morceau le plus important. Après ça, il faut faire de la recherche. On est chercheur, fait qu'on fait des projets. Nutri-Québec, c'est un projet qu'on a débuté avec le ministère de la Santé. En fait, on leur a proposé de faire une étude qui mesure les habitudes alimentaires des Québécois sur plusieurs années, parce qu'on a très peu de données sur les habitudes alimentaires au Québec et au Canada. On a des enquêtes nationales qui se font de temps en temps. On a des projets de recherche par-ci, par-là. Alors, et dans le contexte de la la politique gouvernementale de prévention en santé, PGPS, qui a été lancée en 2017-2018. On proposait une étude, un outil pour mesurer l'impact des politiques sur les habitudes alimentaires des Québécois. Donc, projet Nutri-Québec, c'est un projet qui se passe sur le web. On utilise des outils qu'on a développés pour mesurer les habitudes alimentaires via des questionnaires sur Internet. Et les gens, n'importe qui, étaient invités à participer, à fournir des réponses à nos questionnaires alimentaires, d'autres types de questionnaires sur les variables sociodémographiques, sur les facteurs de santé, etc. Puis on essaie de bâtir une cohorte. On est rendu à 4000 personnes, mais on veut monter à beaucoup plus que ça. On a été un peu pris dans la pandémie, comme tout le monde. Là, les gens avaient d'autres priorités que de participer à un projet comme ça. Mais donc, de bâtir une cohorte qui nous permettrait de mesurer dans le temps et qui nous permet de mesurer dans le temps les variations dans les habitudes alimentaires de notre population. Puis là, par exemple, s'il y a une taxe sur le sucre qui apparaît à un moment donné, bien, on est en position pour voir, OK, bien, est-ce qu'il y a un avant puis un après, puis quel est l'impact sur la consommation de sucre, évidemment, mais aussi peut-être d'autres variables nutritionnelles qui vont bouger en même temps. Fait que ça devient un projet assez riche pour beaucoup de monde. Puis c'est un projet qui répond à un besoin de nos décideurs, parce qu'après ça, quand tu as des données, tu es capable d'en arriver à des politiques qui sont plus spécifiques. Puis qui vont potentiellement avoir plus d'impact aussi sur la population.
Puis quel est l'objectif? Vous avez dit, là, il y a 4000 personnes qui participent au projet. Est-ce que vous avez un objectif où vous aimeriez vous rendre? Puis le suivi pour l'étude est prévu pour combien de temps?
Oui. Bien, le chiffre souhaité, c'est le plus gros possible, évidemment. cet automne, là, on repart une vague de recrutement dans deux sphères différentes, c'est-à-dire grand public. Donc, à travers des médias, etc., différents partenariats, mais aussi pour aller rejoindre des populations plus vulnérables parce que on fait une étude sur le web et donc en partant, on a des billets de sociodémographiques qui sont inévitables. Alors, pour essayer d'avoir le plus de représentativité possible, on ne sera jamais 100% représentatif, on va dans des communautés où le niveau sociodémographique est un peu moins, socio-économique est un peu moins favorable. Puis là, ben, on va chercher des gens pour participer. Si j'avais 30 000 participants dans Nutri-Québec, je serais content, mais j'aimerais qu'il y en ait plus que ça. Alors, puis l'idée, c'est qu'au-delà de ma retraite, dans quelques années, que ce projet-là se poursuive pour les 20-25 ans, pour qu'on puisse avoir des données vraiment longitudinales, faire des analyses justement de nature, lien entre l'alimentation, la santé, quand on aura assez de monde, etc. Donc, il y a beaucoup de potentiel.
Oui, ah, ce serait chouette parce qu'il existe des grandes cohortes, justement, qui sont plus aux États-Unis, qu'on utilise puis qu'on infère un peu. Bon, ben la réalité de ce qui est observé peut s'appliquer au Québec, mais le Québec a quand même son unicité au niveau culturel et tout, que ce serait super intéressant qu'on ait notre propre cohorte.
C'est exactement le but de Nutri-Québec, c'est d'être capable d'avoir une idée de notre portrait ici et non pas de tirer des conclusions à partir de d'autres cohortes qui sont différentes. Ouais.
Puis pour des études aussi longues, comment le financement fonctionne? Parce que je pense, disons, dans notre labo, on a une subvention pour un projet de 5 ans. Donc, est-ce que quand vous appliquez pour des subventions, là, vous avez l'argent pour 20-25 ans ou c'est quelque chose qui est renouvelé après chaque période de temps?
Ça serait un rêve d'avoir une subvention de 25 ans. Au départ, on a été financé par le ministère de la Santé à travers la PGPS, justement, puis son premier plan d'action. Et là, on avait un horizon de 4 ans pour partir tout ça, mettre ça en place, etc. Le plan d'action numéro 2 a été lancé l'année passée. Puis là, ben, on a réappliqué pour dire, bon, ben, êtes-vous content, on avance, voici quelques données, etc. Mais tu sais, on n'est pas rendu encore, mais tu sais, on bâtit. Puis on a été renouvelé. Mais tu sais, c'est un combat éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promesse que ce projet-là va être financé pour les 25 prochaines années, puis là, ben faut baisser la tête puis foncer, trouver du financement. Mais jusqu'à date, on est privilégié, on a un partenaire qui est intéressé par le projet puis qui continue à nous appuyer de façon très intéressée. Puis là, on a encore pour 2 ans en ce moment, surtout pour, il y a le financement, tu sais, qui permet de poursuivre le volet général. population en général, mais là, surtout le financement pour aller chercher des populations plus vulnérables au cours des 3 années, dont la dernière qui vient de se terminer, là, les 2 prochaines.
Oui, ah non, c'est super intéressant d'aller voir justement le portrait de populations qui sont parfois plus dures à rejoindre et pour lesquelles on a besoin de données pour développer des interventions. Ouais.
Puis ce qui est cool, à l'ère du web et des études de cette nature-là, c'est que là, on est capable d'utiliser la puissance des données et de la géolocalisation, etc. Donc, on est capable même de faire des portraits dans certaines communautés, parce qu'on a localisé les gens selon où ils habitent et tout ça. Et donc, ça nous permet même de faire des cartes, tu sais, de défis alimentaires dans certains coins, de comparer des régions, etc. S'il se passe quelque chose dans une municipalité, une fois qu'on aura beaucoup de monde, on pourrait mesurer ce qui se passe en réponse à une action précise. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, on ouvre la porte on sort un peu de la tradition de l'épidémiologie, puis on utilise les données là, à une dimension qu'on ne pouvait pas espérer avant.
Oui, tout à fait. Puis justement, en épidémiologie, une des forces, une des limites, on peut rejoindre beaucoup de gens, avoir une idée d'une population, mais les limites, souvent, les données en nutrition, c'est auto-rapporté, il y a différents biais, bon, qui peuvent nuire à la qualité des données. Et comment, en développant une plateforme web, qu'est-ce qui a été mis en place pour essayer que la récolte de données soit aussi précise et rigoureuse que possible dans ce cadre-là?
Bon. J'arrive d'un congrès international en Irlande là, sur la mesure des habitudes alimentaires, de l'activité physique. Puis le message qui ressort tout le temps, c'est qu'il faut rester humble devant les données nutritionnelles. Parce qu'on ne peut pas mesurer avec la perfection exactement c'est quoi que les gens mangent. Il y a des erreurs, les outils sont imparfaits, etc. Fait qu'il faut rester humble et surtout pas prendre les données comme étant la vérité. Il faut tirer des tendances, des conclusions, puis valider ça avec d'autres études. Nous, on a développé un rappel de 24 heures. Il y a plusieurs outils en nutrition qu'on peut utiliser pour mesurer les habitudes alimentaires. Un rappel de 24 heures, comme tu le sais, mais pour les auditeurs qui sont moins familiers, les gens reçoivent une notification et on leur demande qu'est-ce que vous avez mangé hier, durant les dernières 24 heures. Donc, c'est sûr qu'il y a un biais de mémoire, c'est qu'on peut se tromper, on n'est pas sûr, la quantité, etc. Tu sais, c'est la faiblesse de ces outils-là. Mais par contre, c'est moins soumis à des erreurs systématiques. Donc, on surestime trop, on sous-estime trop certaines choses. C'est moins soumis à ça que, par exemple, un questionnaire de fréquence où là, on va demander qu'est-ce que vous avez mangé en moyenne durant le dernier mois. Ça, c'est un autre outil qu'on peut utiliser, mais qui est soumis à d'autres erreurs ou d'autres biais. Donc, le rappel de 24 heures sur Internet a aussi un autre avantage, c'est-à-dire que comme c'est pas le nutritionniste qui pose la question, qu'est-ce que tu as mangé hier, puis t'en as-tu pris beaucoup, pas beaucoup, puis t'as-tu, bon... Il y a moins de biais de prestige associés à l'utilisation de cet outil-là. C'est que les gens sont moins gênés de dire ce qu'ils mangent vraiment parce que c'est l'effet Facebook. Là, on est comme pas gêné de dire ce qu'on fait quand on est sur Facebook en pensant que personne ne nous regarde. Donc ça, c'est un avantage du web. Puis on a d'ailleurs démontré avec un de mes étudiants, Didier Brassard, que une même population soumise à un rappel de 24 heures par quelqu'un qui fait une interview versus un web, ben, il y a une différence de 200-300 calories. Il manque 300 calories quand c'est la diététiste qui pose la question, par exemple.
Ah, c'est intéressant. Wow.
Puis, la moitié de ces calories-là, c'est des aliments qu'on souhaite pas voir dans le guide alimentaire. Fait qu'il y a vraiment un biais de prestige. Les gens comme oublient. Je mets entre guillemets de déclarer certains aliments, puis de préférence, il oublie de déclarer certains aliments qu'on pense qu'on ne devrait pas manger. Donc, c'est l'avantage du web, c'est ça qu'on utilise. On a fait plusieurs études de validation quand on a développé l'outil. En ce moment, il doit y avoir une cinquantaine d'équipes de recherche qui l'utilisent partout au Québec et au Canada, cet outil-là, parce que c'est quand même assez unique. C'est le seul qui a été développé au Canada jusqu'à maintenant comme outil rappel de 24 heures.
Oui, puis pour l'avoir déjà utilisé dans d'autres études auxquelles des fois, moi, je participe, j'aime beaucoup le fait que vous avez des images. Disons que, OK, j'ai mangé du tofu, puis là, bon, un quart de tasse, là, vous avez vraiment des images de ce que ça représente. Donc, je trouve que ça rend, ça facilite beaucoup justement d'être comme, ah, je pensais que c'était un tiers, mais finalement, c'était plus une demi-tasse. Puis en tout cas, ça, je trouve cet outil-là qui est vraiment fabuleux.
Oui, ben c'est un peu l'approche qui est utilisée par les outils web maintenant de type rappel de 24 heures. Le défi des images, évidemment, c'est que tu ne veux pas induire un biais parce que tu mets des images trop grosses ou trop petites, etc. Ouais. Donc, il y a toute une science en arrière de ça. Puis, je pense qu'on a fait un bon travail. C'est un outil qui fonctionne bien puis qui est très apprécié. Hein.
Mm-hmm, oui, tout à fait. Et je crois aussi que vous avez été, on disait que bon, la pandémie a mis des bâtons dans les roues de ce projet-là et de bien d'autres, mais que le timing entre le début de l'étude et la pandémie vous a quand même permis de voir, je pense avoir vu certaines de vos publications où grâce à Nutri-Québec, ça a été possible de voir les changements au niveau des habitudes alimentaires avant, pendant et après la pandémie. Donc, est-ce que vous voulez parler un peu de ces données-là?
Oui. Bien, c'est exactement quand on a parti de Nutri-Québec, on se dit OK, l'idée derrière Nutri-Québec, c'est d'être capable de mesurer en temps réel, entre guillemets, des changements dans les habitudes alimentaires. Là, on a eu une expérience naturelle qui s'est déroulée devant nos yeux, la pandémie, puis on avait un millier de gens à peu près là qui avaient répondu, on avait plus que ça, mettons 3 000, qui avaient répondu à nos questionnaires alimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mangez? Avant la pandémie, là, la pandémie frappe, puis nous, en dedans de quelques semaines, on a retourné les questionnaires à ces gens-là après un mois de pandémie pour leur dire « qu'est-ce que vous mangez maintenant? » Puis, on était la première étude, tu sais, parce qu'on a pu le faire comme ça. Tout était prêt sur le web, et on avait nos 3 000, on leur envoyait un questionnaire, puis l'étude était finie. Alors, ça nous a permis de mesurer avec des outils validés avant et après la pandémie, l'effet de la pandémie sur les habitudes alimentaires. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées là-dessus, mais souvent, ils vont dire, bon, ben par rapport à avant la pandémie, mangez-vous plus ou moins? Et là, par rapport à avant, on s'en rappelle pas, là, nous autres, on l'avait mesuré avant. Fait que ça nous a permis de voir que, contrairement à ce qu'on a entendu beaucoup, que là, les habitudes alimentaires, ça s'en allait dans tous les sens, puis il y en a qui mangeaient tout croche, puis il y en a qui se sont mis à cuisiner, puis il n'y avait plus de farine, puis etc. En moyenne, la qualité de l'alimentation, c'est pas ni détérioré, ni amélioré vraiment. Il y avait même une petite amélioration, là, mais... en moyenne, oui, il y a des gens qui ont mangé moins bien un peu, il y a des gens qui ont mangé un peu mieux durant les premiers mois de la pandémie, mais en moyenne, ça c'était s'il y avait quelque chose un peu amélioré, puis probablement, comme notre outil permet aussi de mesurer est-ce que vous mangez chez vous, vous cuisinez, ou bien non, vous mangez à l'extérieur. Mm-hmm. Bien, comme de fait, le nombre de repas pris à l'extérieur de la maison a chuté drastiquement, tout était fermé, on a pu le mesurer. Alors, on est passé de 33% des repas, par exemple, sur l'heure du dîner à 2% ou quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres devant moi. Mais donc, ça peut expliquer quand on mange à l'extérieur, la qualité de l'alimentation tend à être un peu moins bonne. Alors, le fait de manger plus à la maison fait en sorte que ça a peut-être eu un petit effet bénéfique sur la qualité de l'alimentation des gens durant les premiers mois de la pandémie. J'ai une étudiante qui a fini sa maîtrise au mois de... faut que j'évalue son mémoire, là. Elle a regardé l'effet à long terme. Donc, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé sur les habitudes alimentaires dans Nutri-Québec avant la pandémie versus après 1 an, après 2 ans? Puis là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit habituellement dans la population générale. C'est-à-dire qu'il y a une légère détérioration tranquillement d'alimentation. Alors... C'est un peu décourageant, mais c'est ça qui est ça. C'est un défi de bien manger. Puis quand on le mesure, on voit que les gens trouvent ça difficile.
Mm-hmm. Puis si je ne me trompe pas, vous mesurez aussi des variables psychosociales ou en lien avec la santé mentale. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire des liens justement de, je ne sais pas, ceux que leur alimentation s'est détériorée, est-ce que ça correspond à ceux qui ont vécu plus de stress financier, d'anxiété et compagnie?
Oui, on n'a pas fait ces analyses-là encore. On a des questionnaires qui permettent de mesurer le stress, mesurer... différentes variables psychométriques, on va dire. Puis oui, on peut faire ces corrélations-là. On les a juste pour regarder encore. C'est Là, ce qu'on essaie, c'est de bâtir la cohorte, mais évidemment, là, quand on va avoir assez de mains pour regarder tout ça, on va pouvoir poser un regard plus pointu. Ce qu'on a fait récemment, par contre, on a développé un questionnaire qui permet de mesurer l'alimentation locale. Est-ce que les gens s'alimentent de façon locale? Parce que là, c'est la grosse, un des gros, un des gros sujets de recherche, l'alimentation durable, l'alimentation locale. Puis, on a développé un outil, on l'a fait remplir par nos participants Nutri-Québec. Puis, on regarde, est-ce que manger local, c'est une étudiante à la maîtrise là, qui va travailler là-dessus en janvier, est-ce que manger local, ça correspond à mieux manger? Puis, on a tendance à penser que oui, tu sais, tu manges local, tu vas manger mieux. Pas tant que ça. Alors, c'est un exemple où là, on a des données qui vont nous permettre de vérifier, là, mettons, des fois, on fait des raccourcis, là, entre certaines dimensions de l'alimentation. Manger durable, manger local, végétarien, égale qualité de l'alimentation. Pas tout le temps. Donc, c'est le genre d'études, là, qu'on est capable de faire. Un autre exemple qu'on peut déployer dans Nutri-Québec.
Oh, donc, il va y avoir des possibilités d'hypothèses et d'analyses incroyables avec cette cohorte-là que
C'est sans fin, sans
c'est
fin.
vraiment. C'est
Ouais.
vraiment, oui, effectivement. Puis, comme je vais le mentionner, puis je pourrais mettre le lien dans la description de l'épisode, mais s'il y a des gens qui sont intéressés d'y participer, c'est du recrutement continu, les gens peuvent embarquer
Ouais,
à
c'est
tout moment.
nutriquebec.com, puis c'est un don de soi, tu sais, je veux dire, on participe à la science. Les gens reçoivent un petit bilan nutritionnel à la fin des questionnaires nutritionnels, mais c'est vraiment l'opportunité, puis surtout les gens qui sont pas dans la région de Québec ou à Montréal, qui ont des fois l'intérêt de participer à des projets de recherche, mais qui peuvent pas parce qu'ils sont à Rimouski ou etc., ben là, n'importe qui peut participer, puis c'est vraiment une contribution importante à l'avancement des connaissances pour un meilleur Québec dans le futur.
Oui, tout à fait. Puis puisque ça se fait, je veux dire, je repense à mon propre projet où est-ce que là, les participants, c'est des grosses journées de 7-8 heures avec nous autres en laboratoire, des procédures invasives, là, c'est derrière l'ordinateur. Donc oui, c'est certain que ça demande un certain temps, mais c'est quand même, c'est pas invasif, il y a très peu de risques, puis ça se
Ah,
passe bien.
exactement. Oui, parce qu'infuser des traceurs à du monde,
Oui.
c'est quelque chose, là. C'est ça.
Oui,
Non, c'est
tout
pas mal plus doux que ça. C'est une petite heure et demie par année à remplir quelques questionnaires. Puis c'est une contribution à la science qui est incroyable, là. Ouais.
Oh, tout à fait. Donc, j'encourage les gens à y participer, puis je vais mettre le lien dans la description de
Super,
l'épisode si
merci.
les gens veulent y accéder. Et ben, pendant on parle d'épidémiologie, vous avez développé, puis avec, je crois, Didier Brassard, votre ancien étudiant, le Healthy Eating Food Index 2019 pour mesurer, je crois, l'adhérence aux recommandations du dernier guide alimentaire canadien.
Oui.
Est-ce que ça, vous voulez en parler?
Oui, ben ça c'est une drôle d'histoire parce que Didier, c'est un étudiant qui étudie ici à l'Université Laval comme nutritionniste. Il a fait sa maîtrise sur les gras saturés puis l'efflux de cholestérol à partir de macrophages. Donc
Oui, le
on était dans
fondamental.
le creux là, du métabolisme et tout ça. Puis, m'a donné dit, ah, je serais peut-être intéressé à faire un doctorat. Puis là, j'ai dit, on raconte souvent l'histoire, lui et moi, de différentes façons, mais pour arriver au même point, tu sais, j'ai dit, il me semble, on devrait faire de quoi sur l'évaluation alimentaire. Tu sais, il y a comme, c'est challengé, ça, en ce moment. Les gens se disent, non, non, la nutrition, ça vaut rien. On n'est pas capable de mesurer ce que les gens mangent. C'est tout proche. J'ai dit, d'avoir fait un doctorat là-dedans. Puis il aimait ça, les statistiques. Il commençait à aimer ça pas mal, tout ça. Fait que, puis il me dit, voyons, il me semble que c'est pas être ça, une évaluation alimentaire. T'sais. Puis, de fil en aiguille, bon, on a parti le projet là-dedans, de faire des comparaisons d'approches de mesure, puis de raffinement de mesure, puis avec, à un moment donné, une opportunité de travailler avec Santé Canada, qui écrit le guide alimentaire canadien en 2019, ou qui sort en 2019, le nouveau guide. Bon, moi, je leur propose de développer un outil qui permet de mesurer l'adhésion aux recommandations du guide alimentaire avec un groupe de chercheurs à travers le Canada, tout ça, et ils acceptent. Puis je dis à Didier, bon, ben, voici un nouveau projet dans ton doctorat. Puis, ah, ouais, OK, cool, tout ça. Alors, on a développé cet outil-là, puis, tu sais, contre toute attente, tu sais, Didier, bon, a publié le développement, l'évaluation de l'outil. J'explique peut-être dans quelques minutes comment ça fonctionne. Mais il a reçu le prix Jacques Genet du FRQS pour cette publication-là hier.
Ah, pour vrai!
Oui, alors tu sais, on en rit toujours
Wow!
de plus en plus parce que c'est que ouais, l'évaluation alimentaire, c'était pas si fou que ça finalement.
Ouais!
Oui.
Ah,
Le
cool!
FI, le Healthy Food Index, a été développé pour mesurer. Bon, il y a un nouveau guide alimentaire. Puis le but du guide alimentaire, c'est d'aider les gens à mieux manger. Mais si tu mesures pas si les gens mangent mieux après que tu sors le guide alimentaire, ça donne pas grand-chose parce que tu dis, bon, voici ce que les gens devraient faire, mais on veut savoir si les gens le font. Alors, l'idée de ce score-là, de FI, HEFI, c'est de mesurer si les gens font ce que le guide alimentaire dit sur les recommandations sur la consommation d'aliments sains. Alors, on a développé un outil, comme il en existe ailleurs, donc aux États-Unis, par exemple, qui s'appelle le Healthy Eating Index, HEI. Il y en avait un au Canada avant sur le guide alimentaire 2007, qui s'appelait le HEI canadien. Donc là, on a développé un qui était spécifique au guide alimentaire 2019. Il y avait certains défis parce que, bon, peut-être que les gens ne sont pas tous familiers, là, mais notre ancien guide alimentaire, il disait, prenez tant de portions de ci, tant de portions de ça, tant de portions de ci, grains entiers, légumes, fruits. Là, il n'y a plus de portions, il n'y a plus de nombre de portions. Fait qu'il y a une assiette avec la moitié des légumes et fruits, le quart de grains entiers, le quart de protéines, plus souvent des protéines végétales qu'animales. Fait que là, tu dis, comment tu mesures ça? Tu sais, il n'y a pas de chiffre pour dire, tu rends compte ce que le guide alimentaire propose. Alors, on a eu beaucoup de plaisir à développer cet outil-là, puis trouver une façon justement
Ben oui.
de quantifier l'adhésion au guide alimentaire avec une mesure, un outil qui permet de classer les gens selon leurs habitudes alimentaires.
Et grosso modo, comment l'outil fonctionne justement, puisque là, c'est plus, comme vous dites, c'est plus des portions qui se mesurent de façon objective, c'est plus, bon, une proportion de l'assiette. Donc,
Ouais.
je sais que c'est complexe, mais mettons
Oui,
simplement comment ça fonctionne.
absolument. En fait, il y a plusieurs, dans le guide alimentaire, il y a plusieurs documents, puis on s'est inspiré de tous les documents pour en arriver à un score qui reflétait l'ensemble de ces recommandations-là dans ces documents-là. Un des documents qu'on a dans le guide alimentaire, c'est l'assiette, où on a la moitié de l'assiette, c'est des légumes et fruits, le quart, c'est des grains entiers, puis l'autre quart, c'est des protéines. Fait que là, on s'est dit, bon, est-ce que c'est une recommandation, ça, de consommer la moitié de l'assiette en légumes et fruits? Puis Santé Canada nous ont dit, oh oui, c'est un peu ça qu'on avait en tête. Fait que pour les légumes et fruits, par exemple, on calcule le nombre de portions de légumes et fruits. Et ce n'est pas des portions comme on les entend traditionnellement, mais c'est ce qu'ils appellent des quantités de référence, c'est-à-dire la portion normalement consommée par les Canadiens quand ils consomment des légumes et fruits. Fait que c'est comme une portion de référence, on va dire. Fait qu'on additionne toutes les portions de référence de tous les aliments d'une personne dans un rappel de 24 heures. Donc, qu'est-ce que vous avez mangé hier? La personne rapporte, par exemple, des légumes, des fruits, des grains entiers, des grains non entiers, des protéines, donc de la viande, etc. Après ça, des aliments qui sont pas dans l'assiette, des gâteaux, etc. On compte le nombre de portions de référence. Puis quand le nombre de portions de référence de légumes et fruits est égal à la moitié de toutes ces portions-là, ben là, tu as tous tes points pour cette
OK, je vois.
recommandation-là en spécifique. Puis on fait ça
OK.
pour les grains entiers, pour les protéines, pour les breuvages. Puis après ça, il y a les recommandations sur les gras saturés, le sucre, le sel, où là, c'est plus facile parce qu'on a des cibles précises. Par exemple, 10% des calories sous forme de gras saturés. Fait que là, on peut donner des points selon ce que les gens font, puis on arrive à un score qui est sur 80 points. Puis on est capable de dire, bon, mais on sait que quelqu'un qui a 30 sur 80 versus 60 sur 80, mais celui qui a 60, il mange mieux ou il est plus proche du guide alimentaire que celui qui a 30.
Oui. OK. Ah, c'est super, super intéressant, mais ça a dû être effectivement tout un travail de réflexion, de passer au travers de chaque outil pour voir, bon, ben, comment on mesure ça.
Exact. On était un groupe d'une vingtaine de chercheurs canadiens et américains qui avaient de l'expérience dans différents secteurs, disons, connexes à ça. On avait Santé Canada, on leur disait, c'était quoi que vous vouliez dire quand vous avez dit ça? Tu sais, parce que, par exemple, par rapport aux protéines, manger des protéines végétales plus souvent. Bon, comment on mesure ça pour dire tu as atteint la recommandation.
Oui, oui, plus
souvent. Les longues discussions, fait qu'on s'est dit, bon, OK, mais si plus souvent, ça veut dire plus souvent que l'autre, donc plus souvent de protéines végétales que de protéines animales, plus souvent, c'est 50 % ou plus. C'est plus que la moitié du temps, c'est plus souvent.
Okay.
Fait qu'on est parti là-dessus, puis il y avait, tu sais, je veux dire, ça aurait pu être 75, mais il fallait trouver un chiffre. Donc, il y a eu des nombreuses discussions. Des fois, Santé Canada n'était pas tout à fait d'accord, mais tu sais, d'un point de vue méthodologique, il fallait tenir certaines rigueurs.
Mm-hmm.
Il y a une culture aussi, donc, tu sais, une culture de développement d'outils. Fait que ça a été vraiment le fun comme projet parce qu'on avait des expertises, ça tiraillait un peu de tous les bords, mais on est arrivé avec quelque chose de consensuel là, qui était vraiment un beau projet.
Mm-hmm. Ah, super. Puis donc là, maintenant, cet outil-là est bien développé, peut être utilisé par d'autres groupes de chercheurs qui souhaiteraient
mesurer l'ADN. En ce moment, l'outil était développé pour être utilisé avec des données qui viennent d'un rappel de 24 heures ou de plusieurs rappels de 24 heures.
Ouais.
Mais on, comme nous, on l'a adapté pour des données qui viennent d'un questionnaire de fréquence. Donc, il y a moyen de l'adapter un peu. Là, mais oui, le code est disponible, les façons de le calculer, c'est disponible sur les sites web de Santé Canada. C'est tout open access là, pour que plus de monde possible puisse l'utiliser.
Mm-hmm. Ah, super. Puis, il me semble aussi dans un webinaire de la Société canadienne de nutrition où vous et Didier aviez présenté l'outil. Il y avait aussi un autre groupe qui avait présenté, j'avais trouvé ça super intéressant, le développement d'un outil pour mesurer les recommandations plus par rapport au comportement alimentaire, donc de prendre les repas en bonne compagnie, se méfier du marketing alimentaire. Donc, en tout cas, je ne sais pas si on est où dans ce travail-là, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir l'aspect, des nutriments, qu'est-ce qui est consommé, mais aussi de comment c'est consommé, qui est une belle composante, je trouve, qui a été ajoutée au dernier guide.
Oui, c'est ça. C'était une des... À part l'absence de portions, tout le volet comportemental, c'est une belle addition, comme tu le mentionnes. Puis d'ailleurs, les articles sont acceptés là, pour publication sur le développement de... C'est un outil de dépistage, un screener qu'on appelle plus.
Oui.
Mais qui permet de mesurer justement les dimensions plus comportementales, les recommandations, ces recommandations-là dans le guide alimentaire, cuisiner en bonne compagnie, être conscient, etc., là, de son alimentation. Donc, puis il y a un autre screener qui a été développé pour, si on n'a pas de données de rappel de 24 heures, parce que ça demande un peu plus de temps à collecter ce genre de données-là, puis quelqu'un qui n'est pas en nutrition, mais qui devrait avoir des données nutritionnelles dans son projet, peut utiliser un autre screener qui a été développé par l'équipe de Sharon Kirkpatrick à Waterloo, puis avec une équipe un peu comme nous, là, une équipe de chercheurs un peu partout au Canada, qui est plus court, mais qui permet de mesurer de façon rapide l'adhésion au guide alimentaire sans donner de rappel de 24 heures.
OK.
Fait que ça prend 5 minutes, puis c'est beaucoup plus rapide. Puis ça corrèle quand même relativement bien avec le FI. Et si tu n'es pas prêt à faire un rappel ou plusieurs rappels de 24 heures, ben tu peux utiliser ça comme outil de dépistage pour voir comment tu te rapproches en général du guide alimentaire pour la consommation d'aliments sains. Fait que il y a comme ces trois outils-là qui ont été développés à même le gros projet de l'évaluation du nouveau guide alimentaire.
Ah, bien, encore une fois, c'est vraiment chouette qu'on ait nos propres outils au Canada pour mesurer, justement, basé sur... Je pense que des fois, on s'inspire beaucoup de ce qui est fait aux États-Unis. Ils ont des très bons outils, mais d'avoir quelque chose qui est adapté, justement, directement à nos recommandations, c'est vraiment chouette.
C'est essentiel, oui.
Mm-hmm. Puis, est-ce qu'on a des données, justement, avec le FI, de quoi a l'air l'adhérence des Canadiens et Canadiennes au guide alimentaire actuel?
Dans l'article d'évaluation, quand on a développé l'outil, on s'est appuyé sur les données de l'enquête canadienne de 2015, qu'on appelle l'enquête sur la santé des collectivités au Canada ou canadienne, CCHS de son petit nom, 2015. Puis là, il y a à peu près 22 000 Canadiens qui ont participé à cette enquête-là avec des données de rappel à 24 heures, pas sur le web, mais par un intervieweur. Quand même des données intéressantes. Puis, on a fait rouler le FI là-dedans pour voir, les gens sont où à peu près, puis c'est quoi les composantes qui scorent bien, puis celles qui scorent moins bien. Le score moyen au Canada, chez les Canadiens de 2 ans et plus, en 2015, c'était 43 sur 80. Fait que tu dis, bon, OK, mais le 90e percentile, c'était, ou 99e percentile, c'était genre 68 points. Il n'y a personne qui a 80 sur 80,
Ouais,
là.
ouais.
Fait que soit que, on peut tirer deux constats, là, c'est soit que le guide alimentaire est parfait et est impossible, ou soit que notre outil ne permet pas d'avoir 80. Alors, tu sais,
Ouais, ouais.
C'est un des deux. Néanmoins, tu sais, 43 sur 80, ben c'est pas si élevé que ça. Il y a des différences hommes-femmes. Les femmes ont un score un peu plus élevé que les hommes. Les non-fumeurs ont un score un petit peu plus élevé que les fumeurs. C'est ce qu'on s'attend de voir. Une certaine forme de validation aussi de notre outil. Puis, si t'as 20 puis tu compares quelqu'un à 40, ça veut pas dire qu'il mange deux fois mieux. Il y a pas, c'est pas une échelle parfaite, là, tu sais, donc, ça permet vraiment de poser un regard, je dirais, relatif sur la qualité de l'alimentation. Puis, il n'y a pas non plus de chiffre pour dire, OK, ça, c'est assez bon. Tu sais, rendu à 60, t'es correct, là. Il n'y a pas de chiffre pour ça. Plus le score est haut, mieux c'est. Puis Didier, dans son dernier papier de doctorat, il a fait rouler le score FI dans une cohorte de la Grande-Bretagne, le UK Biobank, pour regarder s'il y a un lien, parce que le but du guide alimentaire, c'est de réduire les maladies chroniques. Ben là, on ne sait pas si ça marche, là, tu sais, on s'attend que oui, parce que ça ressemble beaucoup aux autres guides alimentaires, tout ça, dans le monde. Alors, il a roulé le FI, il a calculé le FI dans une cohorte européenne, puis comme de fait, ceux qui ont des scores FI plus élevés sont moins à risque de maladies cardiovasculaires, donc FIU. Quand on a publié ça, Santé Canada était comme soulagé, on va dire. Ça aurait été plate, là, tu sais, le guide alimentaire, finalement, il réduit pas le risque de maladie cardiovasculaire. Mais oui, donc, c'est pas surprenant, mais il fallait quand même le démontrer. Donc, mais l'idée, c'est que plus ton score est élevé, mieux c'est. Il n'y a pas de chiffre pour dire, OK, là, je suis correct, j'ai pas osé de mieux manger.
Puis je pense aussi les données de l'enquête de 2015, si je ne me trompe pas, avaient aussi révélé que je pense que c'était quelque chose comme j'ai 48,7%, mais disons une calorie sur deux qui est consommée qui provenait d'aliments ultra transformés. Donc, si on a un score de 43-80, c'est bon, je sais qu'on ne peut pas comparer directement ces deux choses-là, mais ça montre quand même que c'est comme si une partie de l'alimentation qui provient d'aliments qui sont.
Ah oui. Puis dépendamment comment qu'on calcule puis quelle définition qu'on utilise, là, c'est entre 35 et 50 des aliments consommés qui sont finalement qui ne sont pas dans l'assiette du guide alimentaire.
Oui, ouais, okay? Exactement.
Alors, on peut en parler, là, tu sais, on parle souvent de gras saturé, de sucre, de sel. Mais à un moment donné, là, on a des enjeux nutritionnels qui sont beaucoup plus gros que ces trois nutriments-là.
Oui,
puis,
vraiment.
Quand on dit que un sur trois ou un sur deux des aliments qu'on consomme ne sont pas dans l'assiette des aliments recommandés, bien, rien que partir avec ça, ça serait déjà un gros succès si on était capable de diminuer ça. Puis, en faisant ça, on va régler le problème du sucre, du sel puis du gras saturé en passant.
Ouais, c'est faire une pierre deux coups, là, littéralement.
C'est ça, exactement. Puis, c'est plus facile à comprendre pour les gens. Il n'y a personne qui est capable de calculer combien de gras saturé qu'il consomme ou de sucre. Faut avoir un bac, puis encore là, c'est pas simple. Mais un aliment qui n'est pas recommandé ou consommé moins souvent versus un aliment à consommer plus souvent, c'est un gros gâteau versus une pomme, tout le monde comprend ça.
Oui, tout à fait.
Pas compliqué. C'est compliqué à faire, compliqué à changer, mais c'est pas compliqué à comprendre.
Oui, tout à fait. Et je suis curieuse, est-ce qu'on a des données par rapport... Ah, bien, en fait, je réponds un peu à ma question, là, si c'est les données de 2015, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des différences au niveau de l'adhérence entre l'ancien guide et le nouveau? Parce que l'ancien, puisque c'était, bon, peut-être plus objectif, facile à calculer, mais c'était aussi plus complexe pour les gens, là, des portions, des quantités, blablabla, alors que là, quelqu'un qui n'a pas une grosse littératie alimentaire regarde le guide, puis je veux dire, c'est très visuel, là, beaucoup de végétaux, des grains entiers, des protéines. Donc, je suis curieuse au niveau de, est-ce que le changement d'outil a changé l'adhérence ou a aidé de ce côté-là?
Non, ça, on n'a pas de données là-dessus. C'est une bonne question. Je réfléchis là, en parlant, mais il y a des études qui ont regardé, en n'utilisant pas le FI, parce qu'il n'existait pas dans ce temps-là, mais est-ce que la qualité de l'alimentation s'est améliorée en 2000, parce qu'on a du CCHS 2004, donc des données populationnelles en 2004, puis en 2015. On ne sait pas c'est quand le prochain. Puis il n'y a pas vraiment de changement, là, même si selon l'outil qu'on utilise, même ça peut même peut-être détériorer un petit peu. Alors, malgré tous les efforts qu'on fait de santé publique, de promotion, etc., les gens ne mangent pas mieux. Il y a des gens qui mangent un peu mieux, puis, mais en moyenne, ça ne s'améliore pas. Mais est-ce que le guide a influencé? Mais c'est exactement le problème, c'est qu'on n'a pas de données qui nous permettent de dire avant et après le guide alimentaire. Ouais. Fait qu'un projet comme Nutri-Québec, comme on parlait tantôt, tu sais, s'il y a un prochain guide alimentaire, là, on pourrait faire l'analyse et dire avant, après, puis est-ce que ça a changé quelque chose? On pourrait peut-être mesurer un changement. Mais j'en doute. Les guides, c'est pas ça qui a le plus d'influence sur les habitudes alimentaires des gens, là.
Mm-hmm. OK. Bon, bien, à suivre dans les prochaines années. Puis si justement, j'avais même pas pensé, mais c'est vrai que c'est un nouveau guide. Dans quelques années, Nutri-Québec va être là pour, on l'espère, capturer les changements.
Ça va faire plein de projets pour des futurs chercheurs et chercheuses là, qui aspirent à cette carrière-là dans le futur.
Oui, oh non, tout à fait. Puis, ben, on parlait de gras saturé, donc on peut sauter dans ce sujet-là. Vous avez fait beaucoup de travaux pour comprendre justement leurs effets sur la santé. Dans les recommandations, on suggère davantage des gras monoins ou polyinsaturés, fait qu'entre guillemets, les bons gras qui proviennent de poissons, noix, huile d'olive et compagnie, et de limiter les gras saturés qui sont plus dans la viande rouge, les produits laitiers. Par contre...
Et les aliments transformés.
Oui, évidemment. Et les aliments ultra transformés. Puis... Les gras, c'est aussi la raison pourquoi je trouve ça fascinant. Là, selon le type d'acide gras et compagnie, ils ont chacun leurs propriétés, leurs différences. Cette recommandation-là semble parfois susciter la controverse. Donc, voulez-vous parler de ce que vous avez fait sur le sujet?
Oui. En fait, pour faire une petite histoire rapide, tu sais, l'épidémiologie nutritionnelle, ça a commencé ça, dans les années 50 avec des chercheurs américains, Ansel Keys, pour ne pas le nommer, qui ont étudié les habitudes alimentaires. Écoute, on est dans les années 50, là, donc c'est assez rudimentaire comme type de recherche et tout ça, mais c'était très visionnaire. Les habitudes alimentaires de gens dans plusieurs pays, puis ils ont corrélé ça au risque de mortalité cardiovasculaire. Puis ils se sont rendus compte que les pays qui consommaient beaucoup de gras saturés avaient une mortalité beaucoup plus élevée que ceux qui avaient une consommation beaucoup plus faible de gras saturés. Il y avait évidemment beaucoup d'autres différences entre les pays, mais c'est ça qui est ressorti comme message principal de ces analyses-là. Puis l'autre constat aussi, c'était la fameuse diète méditerranéenne, la diète crétoise, là, parce que ceux qui consommaient le moins de gras saturés, c'était les gens qui venaient du Japon et de la Crète. Puis ils ont regardé les habitudes alimentaires de cette population-là, Crète, puis ils ont appelé ça le régime crétois. Puis ils ont dit, wow, ça marche, il n'y a pas de maladie cardiovasculaire sur ce style-là. Fait que ça, c'est le début de l'épidémiologie nutritionnelle. Puis ce constat-là de l'hypothèse, tu sais, ils appellent ça en anglais le diet heart hypothesis, là, c'est le lien entre les lipides, principalement lipides saturés, maladie du cœur, ça a collé. Puis c'est resté là pendant plusieurs années. Puis jusque dans les années 80, tout ça, c'était un constat qui était comme accepté par tout le monde, comme gras saturé égale maladie cardiovasculaire. Mais là, tout à coup, alors même l'industrie a retiré des gras saturés dans l'offre alimentaire, puis souvent, ça a été remplacé par des sucres. Puis là, on s'est rendu compte avec le temps que, c'était peut-être pas le meilleur move. Puis même avec des gras végétaux hydrogénés, donc des gras végétaux, on dit parfait, c'est des gras meilleurs que les gras saturés. Mm-hmm. Donc, tu parlais de monoinsaturés, polyinsaturés, donc des gras de l'huile de tournesol, etc., mais hydrogénés, parce que pour les utiliser dans les produits industriels et tout ça, il fallait qu'ils deviennent plus solides. Donc, on avait un processus d'hydrogénation qui les rendait solides. Et ça créait un nouveau type de gras qui s'appelait les gras trans. Mm-hmm. Puis avec le temps, ces gras trans-là, on s'est rendu compte que c'était pire que les gras saturés, même si c'était les gras végétaux.
Ouais.
Fait qu'on est pris dans cette espèce de tourmente-là de lipides. Puis, avec le temps, les vieilles études d'Ansel Keys, après ça, dans les années 60, il y a eu des études dans les milieux hospitaliers où là, ils ont nourri des patients avec des gras saturés versus des gras polyinsaturés. Quelques centaines de patients prisonniers dans l'hôpital, essentiellement.
Wow, l'éthique!
C'était plus slack un peu, mais tu sais, c'était les menus de cafétéria. Puis
ben
là, ils voyaient qu'il y avait, tu sais, plus de risques de maladies cardiovasculaires chez les gens qui étaient soumis aux gras saturés. Fait que ça renforçait le principe que là, les gras saturés, c'était mauvais pour la santé du cœur. Mais rendu dans les années 80, 90, 2000, 2010, là, les études plus contemporaines ont commencé à sortir pour voir que oups, le lien n'est pas si clair que ça. Ça dépend par quoi on les remplace, les gras saturés. C'est peut-être mieux quand t'es poli, mais quand c'est des monos, c'est pas clair. Mais encore là, ça dépend. Aux États-Unis, on parlait de cohorte américaine. La principale source de monoinsaturés aux États-Unis, c'est la viande. Fait que quand tu regardes le lien, la substitution gras saturé, gras monoinsaturé aux États-Unis, ben, t'as pas de bénéfice, mais c'est parce que les monos viennent de la viande, tu sais. Alors, tu peux pas dissocier le monoinsaturé de sa source. Alors, le principe de la source devient comme une question d'intérêt. Puis, il y a des données qui ont été publiées qui ont montré que, justement, les gras saturés de certaines sources alimentaires n'auraient pas les mêmes impacts sur la santé cardiovasculaire. Entre autres, les gras saturés des produits laitiers seraient peut-être moins pires que les gras saturés provenant de la viande ou des produits transformés, par exemple. Parce que la matrice alimentaire va influencer comment ces lipides-là vont être digérés, vont être assimilés dans l'organisme, etc. Ou le reste de la matrice peut avoir des effets qui vont compenser l'effet des gras saturés, etc. Fait qu'il y a des études qui ont été faites d'un point de vue épidémiologique qui ont montré ça, puis il y a des études qui ont été faites cliniques pour dire, ben moi, puis on en a fait une, tu sais, si tu donnes beaucoup de gras saturés qui viennent du fromage, puis la même quantité de gras saturés qui viennent du beurre, et donc 13-14% de tes calories, ce qui est quand même pas mal quand on considère que le Canadien moyen consomme à peu près 11% de ses calories, 14% de gras saturés dans du fromage versus du beurre, bien, le cholestérol ne monte pas autant quand il vient du fromage. Parce que les gras saturés, l'effet principal qu'on leur donne, c'est que ça fait monter le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Donc, d'où encore une fois la force de l'hypothèse là, que les gras saturés, ce n'est pas bon pour le cœur, ça fait monter le mauvais cholestérol. Alors, la matrice alimentaire influence l'impact des gras saturés sur le cholestérol. Fait que ça devient compliqué, là, à un moment donné. Fait que pour revenir aux recommandations, tu sais, on dit, bon, faut pas consommer trop de gras saturés. Dans le guide alimentaire, on met une limite à 10 % des calories. Il y a à peu près 40 % des Canadiens qui sont déjà en bas de ça. Fait que c'est pas si pire, quand même. Maintenant, on pose la question, puis moi, je la pose. Je me dis, est-ce qu'on est sûr de cette recommandation-là? Puis est-ce qu'on devrait continuer à la faire alors qu'il y a peut-être des enjeux nutritionnels un peu plus importants que ça? Quand tu as déjà 40 % de ta population qui le fait, ben pourquoi est-ce qu'on continue à mettre des efforts là-dessus, sachant qu'on n'est pas trop sûr encore, etc.? Puis substituer des gras, tu sais, quand on dit qu'il faut manger plus, il faut substituer des gras saturés par des gras insaturés. Moi, si je dis ça à mes parents, là, à part le beurre, ils ne sauront pas quoi faire avec ça. Là. Beurre, margarine, OK, là, on comprend qu'on substitue, mais après ça, tu fais quoi? Là? Ton verre de lait, tu faut que tu remplaces par un autre aliment. Tu ne peux pas prendre un verre de lait riche en monoinsaturé, ça n'existe pas. Là.
Non, exactement.
Alors, c'est un peu complexe, puis on a fait toutes sortes d'études là-dessus pour essayer de faire avancer un peu la réflexion autour de cette recommandation-là puis cette controverse-là.
Puis est-ce que l'effet des gras saturés, là, par exemple, vous l'avez comparé entre du beurre et du fromage, est-ce que ça a déjà été comparé à, par exemple, la viande rouge? Parce que je sais que des fois, je ne sais pas s'il y a une espèce d'attache émotionnelle où les gens vont comprendre que, OK, la viande rouge provenant des charcuteries, OK, c'est ultra transformé, je comprends que ce n'est pas ce qu'il y a le plus nutritif, mais là, des gens qui vont dire, ah, mais là, un bœuf extra maigre peut transformer... c'est pas aussi pire ou donc ça, est-ce qu'on a des données là-dessus?
Oui, bien c'est sûr que tu sais, du bœuf extra maigre ne sera pas une source importante de gras saturé. Alors là, tu sais, c'est que là, on compare, on n'est plus dans l'hypothèse du gras, mais plus dans l'hypothèse de la viande elle-même.
Oui.
Puis là, il y a d'autres enjeux, là, certains produits chimiques qui sont produits lors de la digestion, de la viande, etc. Il y a toute une une recherche autour de ça, mais la viande maigre n'est pas une source de gras saturé si importante que ça. Donc, je reviens un peu à ce qu'on discutait, la big picture. Là. À un moment donné, il faut regarder le portrait plus large. Puis, tu sais, 50% des gras saturés qu'on consomme viennent des aliments qui sont pas dans le guide alimentaire, qu'on recommande pas. Après ça, tu as l'autre 50% qui est divisé en deux, 25% à peu près, là, tu sais, c'est 23 pour le vrai chiffre. 23% au Canada, c'est les produits laitiers. Puis, un autre 23%, c'est les viandes, les protéines. Mais tu as 50%, 45% de tes gras saturés qui viennent d'aliments qu'on ne devrait pas consommer trop, trop souvent. Puis avec ces aliments-là, viennent aussi souvent plus de sucre puis plus de sel, puis plus de calories. Fait qu'au lieu de s'ostiner sur le lait 1% versus 2%, on peut-tu travailler sur le 48% des gras saturés qui devraient peut-être pas être là, là, tu sais? Puis on a fait une analyse avec une de mes étudiantes, Stéphanie Harrison, qui faisait son doctorat. Si tous les Canadiens rencontraient la recommandation de changer les gras saturés par des gras polyinsaturés, OK? Quel impact ça aurait sur la consommation de gras saturés au Canada? Elle passerait de, si tout le monde faisait ça, là, elle passerait de 10,8% des calories en gras saturés à 5,6% des calories en gras saturés. 100% des Canadiens seraient en bas de 10%. Tout le monde rencontrerait la recommandation. C'est impossible que ça arrive, évidemment. Mais la moitié de cette réduction-là était attribuable à si les aliments ultra-transformés contenaient moins de gras saturés puis plus de mono, ben, on irait déjà chercher la moitié de cette réduction-là. Fait que il y a là l'enjeu, les gras saturés. C'est pas les produits laitiers, c'est pas les viandes, c'est les aliments qu'on devrait pas consommer trop souvent.
Oui. Puis avec ma... Bon, ça, c'est plus ma formation comme clinicienne qui parle, mais j'aimerais qu'on s'intéresse davantage à pourquoi les gens en consomment autant. Il y a tout un volet socio-économique de littératie alimentaire que c'est pas juste de dire « réduisez les aliments ultra-transformés ». Il y a personne qui tombe en bas de sa chaise si on lui dit que souper avec un sac de chips et un sac de jujubes, c'est pas ce qu'il y a de plus nutritif du tout.
On le sait.
Mais pourquoi les gens le font? Pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que je trouve qu'il y a plus quelque chose qu'il faut aller explorer.
Tout à fait d'accord.
Puis, on parlait de produits laitiers et j'aurais pu poser cette question-là aussi quand on parlait des recommandations, mais je sais que les sources de financement en recherche, souvent, bon, ça suscite des questionnements, des biais et compagnie. Puis, bon, comme vous savez, le financement public, c'est pas 100% des demandes qui sont financées, mais absolument pas. Donc, des financements, par exemple, des producteurs laitiers du Canada, producteurs 2, canola et compagnie, ça peut venir donner un coup de main. Puis des fois, il y a un peu cette espèce de « ah ben automatiquement, c'est financé par l'industrie, c'est sûr que c'est pas bon, c'est sûr que les données ont été falsifiées. » Puis je sais que vous avez eu des projets qui ont été financés par les producteurs laitiers du Canada, donc voudriez-vous faire un peu de lumière sur comment ça se passe quand on reçoit une subvention de l'industrie?
Oui, absolument. Puis c'est une question, moi, qui me fascine, là. Puis j'ai été dans la tourmente. J'ai été financé par les producteurs laitiers pour certains projets, mais j'ai été financé aussi par les producteurs de légumineuses, par les producteurs de différentes sortes d'huiles, etc. Fait que, autrement dit, moi, pendant une certaine phase de ma carrière, j'étais biaisé envers tous les types de gras, là. Fait que, tu sais, j'étais influencé de toutes parts. Mais un peu plus sérieusement, la recherche financée par l'industrie, évidemment, a une connotation d'emblée, de biais, puis avec raison, dans le sens que, ça n'existe pas, là, une industrie qui va falsifier des données, là. Je veux dire, ça, c'est comme le dopage en sport, là.
C'est de la fraude.
C'est de la fraude, puis ça existe peut-être. Mais ils se font prendre, ces gens-là. Là. Tu sais, je veux dire, il y a moyen maintenant de détecter ça, puis etc. Fait que ça n'existe pas. Là. Falsifier des données et que l'industrie manipule les résultats de ça n'existe pas, ça, en tout cas. Ceux qui font ça, c'est de la tricherie, puis ils se font souvent prendre. Puis il y en a qui ont fait de la prison pour ça, puis c'est documenté. Alors, ce qui arrive, le biais le plus important, évidemment, dans la recherche financée par l'industrie, c'est comment on formule les questions. Alors, moi, si je fais de la recherche sur les produits laitiers, puis que je sollicite les producteurs laitiers pour financer une recherche là-dessus, parce que ça va les intéresser, j'arriverai pas avec une question pour tester l'hypothèse que le lait tue. Tu sais, ils seront pas intéressés à financer si le lait tue. Ils vont vouloir savoir si le lait est protecteur pour la maladie cardiovasculaire. Alors, toutes les questions qui sont orientées, qui sont toutes les recherches qui sont financées par l'industrie, regardent la recherche d'une question favorable à l'industrie et non pas défavorable à l'industrie. Parce que l'industrie des légumes et fruits n'est pas intéressée non plus à regarder si consommer plus de légumes et fruits, ça va augmenter la quantité de pesticides dans le sang des gens. T'sais? Ils ne financeront pas ça. Mais ils vont financer, est-ce que les légumes et fruits, ça améliore ça diminue le risque de cancer. Donc, ils vont être intéressés à financer ça. Fait que le premier gros billet, c'est ça. Puis pourquoi c'est un billet? Parce que quand on regarde la recherche dans un sens, on pose des questions d'une certaine façon. Mm-hmm. Puis ça peut influencer comment qu'on va, quel genre de résultats on va générer. Si je l'avais posé d'une autre façon, j'aurais peut-être obtenu des résultats différents. Puis là, si tout le monde regarde dans la même direction, on a plus de chances de voir toute la même chose. Et donc, on induit un biais dans la façon que la recherche avance. OK? Alors, ça existe. Puis c'est le principal, pour moi, c'est le principal biais associé à l'industrie. Après ça, tu peux rentrer une couche plus loin où là, tu travailles avec une industrie X, que ce soit les producteurs laitiers ou un autre. Puis là, tu as un sentiment, à cause que tu as été financé par eux comme chercheur, un peu de inconscient ou consciemment de vouloir mettre en valeur les données de la bonne façon. Mais mm-hmm. ça, quand tu as l'œil aiguisé, puis tu lis un article, tu le sens assez vite. Là, si le chercheur ou la chercheuse a tendance à être plutôt optimiste dans la façon d'interpréter les résultats, toi, tu dis, hey, là, wow, là, on se calme. Là. C'est pas ça que les données disent, mais ils essayent de faire dire ça. Fait que c'est assez complexe, mais oui, il y a des biais. Ceci étant dit, qu'il y a des études, par exemple, sur le sucre dans les années 2000 qui ont montré, mais pour la raison que j'évoquais tantôt, c'est que c'était toujours pas si pire que ça, mais c'est parce qu'ils regardaient tous dans la même direction. Ils regardaient pas dans l'autre direction, tu sais, pour dire c'est pas bon. Maintenant, ça, ça va rester, puis il faut être vigilant par rapport à ça. Il y a d'autres études qui ont montré que la recherche financée par l'industrie dans certains secteurs était de meilleure qualité. Parce que une industrie qui investit là, pour son produit, elle ne voudra pas faire de la recherche de coin de table. Il va falloir que ça soit solide. Parce qu'ils ne veulent pas s'enfarger. Alors que tu as une subvention publique, puis là, tu es coupé parce qu'ils coupent toutes les subventions, etc. Ben, ton projet va en subir les conséquences. Donc, la qualité diminue. Ça, il y a des données qui montrent ça, que dans certains secteurs, la recherche financée par le privé est de meilleure qualité quand on l'évalue de façon objective. Fait que c'est pas noir et blanc, cette affaire-là. Mais oui, il y a un biais, principalement, tout le monde regarde dans la même direction, puis c'est ça le principal problème de la recherche.
Mais même dans le cas où, disons, OK, la question est posée, est-ce que le lait est protecteur? La réponse peut être oui, ça peut être neutre, puis ça pourrait quand même être, oh mon Dieu, tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas protecteur du tout, puis ces données-là peuvent être observées, puis ça doit être publié quand même.
Oui, bien là, c'est ça. Alors ça, c'est un autre, la publication, puis ça, c'est arrivé, puis ça continue à arriver. C'est plus difficile. Si ta recherche va à l'envers de ce que tu pensais que ça donnerait, bien, l'industrie n'est pas contente. OK? Mais là, dans le contrat que tu as, tu sais, si tu as été vigilant et rigoureux comme chercheur, tu vas avoir dit, moi, je publie coûte que coûte. OK? Ouais. Fait que vous n'avez pas un mot à dire sur ce qui sort de cette étude-là. Puis ça, quand tu travailles avec l'industrie, si tu ne te protèges pas comme ça, bien, tu t'exposes au biais, justement, puis à l'influence. Donc, ça, c'est important de dire, moi, je travaille avec vous autres, je suis bien content, mais je publie, là, tu sais, ça change rien, que ça marche ou ça marche pas, je publie. Puis ça rend, d'où l'intérêt pour que l'étude soit de la meilleure qualité possible pour l'industrie, là, tu sais, parce que tu veux pas arriver à un résultat négatif parce que l'étude est poche, là, tu sais, puis qu'elle est mal menée. Oui. Ceci étant dit, il y a des cas de non-publication dans la recherche académique, parce que quand ça fait 25 ans que tu testes une hypothèse comme chercheur, puis tout à coup, ton résultat contredit ce que tu dis depuis 25 ans, tu vas être moins pressé de publier, parce que tu veux pas te contredire toi-même.
Ouais.
Ça existe, puis c'est un type de biais vraiment lié à la progression, puis à la sommité d'une personne dans son domaine. C'est gênant, puis il faut être pas mal humble, puis pas avoir de fierté indue là, pour dire moi je suis game de publier le contraire de ce que je dis depuis 25 ans. Fait que ce biais-là, il n'est pas juste par rapport à l'industrie, mais il est par rapport au chercheur lui-même qui peut avoir ses propres biais, puis qui arrive à un résultat qu'il ne s'attend pas, puis là, qui va dire, mais moi, je ne peux pas publier ça, j'ai dû me tromper. Mais ça se peut que ça ne marche pas, là, tu sais. Fait que les biais, il y en a partout, partout, partout.
Il faut se rappeler que la science n'est pas là pour nous flatter l'ego puis augmenter notre estime comme chercheur. La science est là pour répondre à des questions au point, mais on est
Ouais.
des humains qui ont des biais, puis il faut en être conscient.
Mais c'est facile de se laisser prendre au jeu, puis à un moment donné, tu deviens un expert dans un domaine. Puis là, tout à coup, tu vas te contredire. C'est ça. Il faut que tu mettes ton ego de côté. Puis il y en a des données qui ne sont pas publiées. Maintenant, dans le domaine de la recherche, il y a des mécanismes pour dire, moi, je suis en train de faire telle recherche. C'est enregistré quelque part. Il y a des sites web qui disent, OK, voici toutes les études cliniques qui se passent sur la planète en ce moment. Puis là, ben après 5 ans, s'il n'y a pas de résultat, là, tu dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec ton étude? Ben, où, là? Il est où le résultat? C'est plus difficile de se cacher, là, maintenant, là. Ouais.
Oui, non, tu as tout à fait. Puis pour revenir justement, quand vous dites dans le contrat, est-ce que, disons, quelqu'un en début de carrière qui a pour la première fois une subvention de l'industrie puis qui oublie d'ajouter cette clause-là que coûte, je publie, est-ce que ça peut arriver que l'industrie les résultats sont pas contents puis ils font non, tu publies pas ces données-là? Est-ce que ça peut arriver?
Oui, ça peut arriver. Oh, oui, je suis sûr que ça peut arriver. Quand tu as quelqu'un d'un côté de l'industrie qui a les dents aiguisées puis qui requin moindrement, ça peut arriver.
Ouf.
Mais il faut que ça soit en béton. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas le chercheur ou la chercheuse dans son petit coin qui écrit son contrat. Normalement, l'université est en arrière. Il y a des gens, des avocats qui surveillent ça, etc. Tu sais, fait, il y a une certaine vigilance. Mais c'est quand même intéressant, le biais, tout le biais associé à la recherche, à l'industrie. Tu sais, moi, je fais de la santé publique maintenant, je m'intéresse, j'ai travaillé avec Santé Canada, etc. C'était pas possible pour moi de faire ça tant que j'étais financé par une industrie. La journée que j'ai annoncé ou que j'ai dit à ces gens-là, bon, ben là, moi, je veux faire de la santé publique, je reviens en épidémiologie, puis, tu sais, j'arrête de soumettre des subventions, j'en aurai plus de financement à l'industrie. Tout de suite après, j'étais une personne intéressante pour la santé publique.
Malgré que c'est pas noir ou blanc, on dirait que c'est triste, mais on dirait que ça laisse une tache sur le dos d'un chercheur
Exact.
le temps qui, même si vous avez produit de la bonne recherche, il y a d'autres gens qui vont produire de la bonne recherche, puis le financement public est déjà tellement limité que, à un moment donné, je veux dire, vous devez exister, là. On veut des réponses à des questions. Donc, ouais, c'est
C'est
une
ça.
fine ligne.
Mais c'est les règles du jeu. C'est correct. Tu les acceptes puis tu vis avec. Moi, j'ai fait ce choix-là. Comme tu dis, j'ai fait de la recherche. Je pense qu'on a produit des bons articles. Souvent, ça donnait pas ce qu'on pensait d'ailleurs. Moi, je fais souvent la farce que moi, ma recherche ne marche jamais. Là. Quand je teste de quoi, là, ça fait ci, ça fait ça, on le teste, ça ne marche pas. Bon, ouais, pourtant, on a fait une bonne étude, on publie. Mais bon, quand tu arrêtes d'être financé par l'industrie, ben là, ça t'ouvre les portes à d'autres types de relations. C'est ça les règles du jeu.
Mais oui, c'est comme on dit au début, c'est une compétition qui se
C'est
continue
ça.
avec des règles établies.
Exact.
Puis, un autre sujet que je voulais aborder, bon, moi, mon doctorat porte sur les oméga-3, donc c'est sûr que quand j'ai un invité qui a fait des travaux là-dessus, j'ai un biais, je souhaite savoir ce que vous avez fait. Puis, je dois avouer que j'ai lu beaucoup de vos publications, j'ai fait mon pré-doc cet hiver, là, donc pour comprendre, bon, effet distinctif du EPA, DHA, qui sont, bon, les deux formes d'oméga-3 qui sont les plus étudiées, qui auraient des effets bénéfiques pour la santé. Donc, voulez-vous me parler un peu des projets que vous avez faits à ce propos?
Oui, ben j'ai eu on a fait un essai clinique, bon, selon les règles de l'art, là, tu sais, randomisé, en chassé croisé. Puis là, l'idée, c'est, depuis plusieurs années, on fait la promotion de la consommation d'oméga-3 qui viennent principalement des produits marins, poissons, algues, etc. Puis qui ont un effet potentiellement bénéfique sur la santé du cœur. Puis c'était quand même un sujet qui était très fort dans les années 90-2000, avec les premières études là, de supplémentation qui sont sorties à ce moment-là. Puis qui est devenu un peu controversé à un moment donné parce que là, il y avait des études qui s'additionnaient. Puis là, c'était comme, voyons, ça ne marche pas autant qu'on pensait. Puis les méta-analyses sortaient. Puis plus les méta-analyses, plus l'effet devenait petit. Dans chaque méta-analyse, à mesure que les données sortaient. Puis, souvent, dans ces études-là, c'était des mélanges d'oméga-3 qui étaient fournis. Donc, tu as mentionné EPA, DHA, qui sont deux types de gras qu'on retrouve dans le poisson, dans les algues. Et on s'est dit, ben, peut-être, puis il y avait de la littérature un peu qui montrait que peut-être les deux types d'acides gras oméga-3 n'ont pas les mêmes effets sur la santé cardio-métabolique. Fait qu'on a fait un essai clinique là-dessus pour vraiment comparer l'EPA, DHA à haute dose sur les facteurs de risque cardio-métabolique comme cholestérol, triglycérides, mais aussi l'inflammation. C'est surtout l'inflammation qui nous intéressait, parce que l'inflammation, c'est un processus important dans le développement des maladies cardiaques. Donc, on a fait cet essai-là. Donc, on était une étude quand même assez nouvelle et innovante là, pour comparer à haute dose dans un grand nombre de patients enchâssés-croisés. C'est une certaine force là, sur une période de 10 semaines à chaque fois. L'effet des différents types d'oméga-3 sur les facteurs de risque.
Puis chassé
Puis,
croisé. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quand un même participant reçoit une intervention, il y a une période de washout, puis après il va recevoir l'autre. Donc chaque personne est son propre
c'est
contrôle.
ça. Le contrepoids d'une étude en chassé croisé, c'est que, mettons, tu veux tester EPA, DHA, ben, tu as un groupe qui prend de l'EPA, tu as un autre groupe qui prend le DHA, puis là, tu compares les groupes. Et évidemment, les deux groupes ne sont pas exactement pareils, souvent. Alors qu'en chassé croisé, comme tu mentionnes, c'est la même personne fait tous les tests, tous les traitements. Donc, on compare la personne à elle-même, ce qui est beaucoup plus puissant. Et donc, on a fait cette étude-là, puis on a montré que le DHA semblait avoir des effets un peu plus forts sur les triglycérides, principalement, un des facteurs de risque cardio-métabolique. Donc, faisait baisser les triglycérides plus que l'EPA. Ça, c'était un peu documenté. Mais aussi baisser un peu plus l'inflammation, certains marqueurs inflammatoires que l'EPA. Ça, c'était nouveau. Puis là, on a creusé, on est allé voir l'expression des gènes qui sont responsables de l'inflammation. On est allé voir la réponse individuelle des gens, parce que, comme on l'a dit, c'est un chassé croisé. Fait que la même personne a pris de l'EPA puis du DHA à différents moments. Est-ce que les gens répondent de la même façon aux deux traitements, etc.? Fait qu'on a publié une dizaine d'articles là-dessus. On a fait une méta-analyse aussi là-dessus. Donc, pour finalement se rendre compte que oui, le PA semble avoir un peu plus d'effet que le DHA sur certains facteurs métaboliques, comme le cholestérol, les triglycérides, certains marqueurs inflammatoires, mais c'est probablement pas ça qui explique, parce que là, la grande tendance dans les oméga-3, les dernières études qui sont sorties, ça a été de l'EPA seulement qui a été donné. Comme tu le sais probablement, tu sais, dans les grandes études presque pharmaceutiques, l'EPA qui a été donné et l'EPA diminuait le risque de maladies cardiovasculaires de façon significative. Fait que nous, on voit des effets plus forts du DHA que l'EPA sur certaines variables cardiaques, on va dire cardiométaboliques, mais l'EPA, mais on n'a pas d'études sur le DHA seulement sur le risque de maladies cardiovasculaires. On sait que l'EPA, ça fonctionne, mais quand ils sont mélangés les deux ensemble, on dirait que ça fonctionne moins. Fait que ça reste encore une science incertaine pour le moment, là.
Oui. Puis même les nouvelles, les lignes directrices pour la prise en charge des personnes qui ont des dyslipidémies ont été mises à jour l'année passée. Puis avant, pour ceux qui avaient de l'hypertriglycéridémie, un supplément d'oméga-3 qu'on trouve à la pharmacie était recommandé. Puis l'année passée, quand ça a été mis à jour, ça a été retiré. Puis la seule forme qui est suggérée, c'est le EPA, la forme pharmaceutique, le VASEPA, je pense, quelque chose comme ça, là. Donc, il ne recommande plus n'importe quel oméga-3 à la pharmacie, vraiment cette dose-là, le 4 grammes, puis c'est pour des gens, c'est de l'hypertriglycéridémie, puis qui prennent déjà une statine. En tout cas, c'est très, très pointu, la recommandation, et plus n'importe quel oméga-3.
Non, c'est principalement dû aux dernières études épidémiologiques qui ont testé l'effet de l'EPA seulement. Nous, ce qu'on a remarqué dans notre étude, c'est que le DHA, ça, c'est dans les méta-analyses, on le voit, là, le DHA fait baisser plus les triglycérides que l'EPA. Ça, c'est clairement démontré. Puis, dans notre étude, il y avait plus de gens qui baissaient leurs triglycérides sur le DHA que sur le EPA. Donc, le DHA, c'est plus efficace pour baisser les triglycérides. Par contre, on n'a pas de données épidémiologiques ou de grandes,
Ouais,
grandes
je
études
comprends.
d'intervention qui montrent que ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que ce n'est pas recommandé en ce moment. Ceci étant dit, il y a une affaire, il y a un élément, moi, qui m'a fasciné dans ces études-là, puis c'est passé complètement inaperçu. Mais en tout cas, des fois, tu fais des affaires, puis T'es tout excité de ça, mais la personne qui le voit ou qui fait le lien, même s'il y a plus de gens qui répondent mieux au DHA qu'à l'EPA pour la baisse de triglycérides, chez ceux qui baissent, la baisse est la même quantité, la même amplitude des triglycérides. Fait que, par exemple, sur DHA, tu as 45% des gens qui vont avoir une baisse de triglycérides. Sur EPA, tu vas en avoir, de ces mêmes gens-là, tu vas en avoir juste 30%. Mais ceux qui baissent, ils baissent la même quantité de triglycérides. Fait que, tu sais, c'est comme, si tu es pour baisser, tu vas baisser, que tu prennes un ou l'autre, ça ne change rien.
Tu vas quand même baisser, ouais. Puis
C'est
vous,
ça.
la dose que vous donniez de mémoire, est-ce que c'était 3 grammes?
3, 2, 2,7 pour être précis.
2,7.
Ouais, c'est ça.
OK. Puis il me semble aussi, quand vous avez mentionné ceux qui répondent mieux, ça, c'était des travaux de Marie-Claude Vogel, je crois, puis vous étiez peut-être dans les auteurs qui avaient identifié certains polymorphismes de gens qui avaient des effets adverses, parce que, bon, Omega-3, on pense tout le temps que c'est bon, soit c'est bon ou c'est neutre, mais qu'il y a des gens que ça avait, je crois, empiré la résistance à l'insuline. Donc, c'est, bon, les différences individuelles, c'est quelque chose qui ajoute à la soupe de complexité pour comprendre quoi ça marche ou ça marche pas.
Bien, on parle de nutrition personnalisée ou de nutrition de précision, tu sais, puis il y a tout un pan de recherche qui se développe là-dedans. Marie-Claude est l'une des pionnières dans ce domaine-là au Canada. Puis oui, comme de fait, puis même ils sont rendus à un score génétique composé de plusieurs gènes, parce que souvent on va regarder, mettons, un gène, puis on va voir si t'as une mutation dans ce gène-là versus pas, comment tu réponds au gras, aux oméga-3, ou au sucre, peu importe. Et là, tu peux faire la somme de plusieurs gènes en présence ou en absence. Puis là, on fait un score génétique, un peu comme un score de qualité nutritionnelle. Fait que ton score est élevé ou faible. Puis si ton score est élevé, tu as plus de chances de bien répondre aux oméga-3 que si ton score est faible. Ils sont capables maintenant, contrairement à avant, quand on prédisait 5% de la réponse des triglycérides, mettons, avec un gène, ils sont capables de prédire 40 à 45% de la réponse maintenant avec un score génétique. Donc, la chance que tu as peut-être de répondre favorablement, mais ils sont rendus à 40% de chance de pas se tromper, autrement dit, de bien identifier ceux qui vont répondre comme il faut. Fait que ça évolue beaucoup. Mais ça aussi, de mettre ça en place dans une pratique clinique, dans une perspective de santé publique, il y a certains défis là-dedans. Puis c'est là que la recherche va s'orienter, là. C'est-à-dire comment on utilise ça pour s'assurer qu'on a les meilleurs effets possibles pour tout le monde.
Ah, c'est certain. Bon, il y a beaucoup de potentiel à ce champ-là, mais la recherche saura nous le dire dans les prochaines années. Je vois le temps qui file, puis pour conclure tranquillement, j'aimerais vous poser une question plus large, puisque ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de la recherche et de la recherche en nutrition. Bon, chaque devis a ses forces, ses faiblesses. Il y a des enjeux dans le monde académique, etc. Et pour les études en nutrition, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines années ou des améliorations dans nos façons de faire, dans le design des études, pas juste au Canada, mais je veux dire dans la recherche qui se fait dans le monde sur le sujet.
Je pense que un des défis qu'on a, on en parlait au début, c'était notre capacité. C'est pas tout le monde qui peut, dans des projets de recherche, nourrir, tu sais, des sujets pendant un certain nombre de temps, etc. On a fait certains projets, nous, on a une capacité de nourrir du monde. Fait qu'on leur donne à manger 3 repas par jour, ils viennent manger ici. Fait qu'on contrôle leur alimentation. Mais dans des études comme Nutri-Québec, dans des études d'observation, là, on observe puis on mesure pas très bien. Et je pense que, tu sais, d'en être conscient, des équipes de recherche qui font de la recherche sur des interventions, mais qui mesurent pas bien ou qui mesurent avec les mauvais outils, les habitudes alimentaires, puis sont pas conscients des limites de ça. Ça cause du tort à la qualité de la recherche qui sort éventuellement. Puis, il y a des efforts qui se font en ce moment, tu sais, de plusieurs personnes là, avec des regroupements pour essayer de resserrer ça un petit peu, puis de dire, OK, soyez conscients. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple, je ne fais pas une généralité, mais si j'étudie, par exemple, la nutrigénomique ou le microbiote, OK,
Oui, c'est
donc
très
le
parlant.
lien entre la génétique et l'alimentation ou entre le microbiote et l'alimentation, on sait que l'alimentation va avoir un effet majeur sur le microbiote, c'est clair. Puis, il y a une interaction entre l'alimentation, le microbiote, puis ce qui va se passer après ça dans le corps puis dans le système. Mais si je mesure tout croche mon alimentation, puis j'essaie de faire des liens avec un microbiote, il va sortir n'importe quoi après ça. Fait qu'on va, on va se perdre dans, dans une méandre de données qui s'en vont n'importe où. Puis, pour perdre du temps, finalement, arriver à des conclusions qui ont de l'allure ou une direction quelconque. Alors, moi, mon souhait, c'est qu'on soit collectivement conscient des limites puis qu'on utilise les meilleurs outils possibles et les ajustements, les améliorations nécessaires pour pas qu'on fasse des liens qui n'ont pas de bon sens là, entre quelque chose qui est mesuré tout croche ou pas avec le bon outil pour une population donnée versus un outcome métabolique, microbiote, génétique. Puis ça, c'est un problème en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'études qui se font qui mesurent l'alimentation de la mauvaise façon.
Mm-hmm.
Soit avec le mauvais outil ou pas les bonnes techniques ou etc. Puis là, ben, la qualité en souffre dans ce temps-là.
Oui. Puis je pense que quand on parlait de c'est important d'avoir une certaine humilité, je crois que c'est important aussi comme chercheur de reconnaître, bon, ben moi, j'ai une expertise pour le séquençage des bactéries dans le microbiote et tout, mais l'épidémiologie, ça, c'est pas ma force. Et donc, j'aurais peut-être intérêt à consulter des collègues qui ont l'expertise pour utiliser les bons outils et vice-versa.
Oui, puis ça se fait de plus en plus, heureusement, mais des fois, les gens voient un outil, « Ah, je peux-tu utiliser ton outil? » Ben, moi, la première question qu'on leur pose, c'est quoi ta question?
Oui,
qu'est-ce que tu veux mesurer? « Ah, je peux-tu utiliser ton FFQ, ton rappel de fréquence, ton questionnaire de fréquence? » Oui, mais c'est quoi que tu veux mesurer? Okay, c'est peut-être pas le bon outil pour ce que tu veux faire. Puis là, si tu es en Alberta, nous autres, on ne l'a pas validé en Alberta, mon outil. Là. Je ne sais pas s'il est correct pour une population où tu as beaucoup de gens de l'Asie de l'Est, etc., tu sais, ou des asiatiques.
Ben
fait
oui.
Que, tu sais, tu peux pas prendre n'importe quoi, n'importe quand. Là. Alors, puis c'est quoi la base de données en dessous? C'est une base de données américaine? C'est une base de données canadienne, etc.? Fait que, tu sais, mais ça, les gens ne savent pas, ceux qui sont dans ce domaine-là.
Oui, oui. Ah oh, non, c'est un très bon point. Puis je pense que, je ne sais plus qui avait dit ça, mais si jamais quelqu'un trouve un jour une façon de quantifier à la perfection l'alimentation des gens, ça va être un prix Nobel pour le domaine de la nutrition. Si on voit ça un jour,
ouais.
Bon. Mais effectivement.
Ben, je peux te dire deux choses, ça va prendre du temps, puis deuxièmement, ça ne sera pas moi. Parce que je ne pense pas que c'est possible.
Non, non, moi non plus, mais bon, on se permet d'être un peu utopique parfois.
Oui, oui, c'est ça, exact.
Puis en terminant, je sais que la nutrition, bon, c'est un sujet qui c'est beaucoup d'intérêt, évidemment. Bon, quand je vais à la librairie, souvent, j'évite la section des livres de nutrition parce que je finis par grincer des dents puis ressortir de la librairie plus frustrée que quand je rentre de bonne humeur. Est-ce que vous avez certains livres, peut-être, pour quelqu'un qui s'intéresse, que ce soit à l'histoire, quand vous parliez, disons, des études de Ansel Keys et compagnie, des ouvrages que vous trouvez intéressants dans le domaine de la nutrition, que vous pourriez recommander à des gens qui sont curieux sur le sujet. Et je crois que vous avez écrit un livre aussi, hein, concernant Oui, oui, OK, je vois votre sourire.
C'est pour ça que, ben, oui, c'est ça, là, les gens ne voient pas, mais moi, j'ai le sourire fendu. Parce que je suis responsable de ceux qui t'ont fait grincer des dents.
Ouais.
J'ai deux livres, en fait, deux livres. Puis je pense pas que mes livres sont meilleurs que les autres. Moi, je l'ai fait au meilleur de mes connaissances, mais je les ai fait les deux livres avec Jean Soulard, qui est un chef reconnu à Québec et ailleurs aussi, mais qui était le chef du Château Frontenac pendant plusieurs années. Si tu dis le nom Jean Soulard à tes parents, probablement qu'ils vont savoir très bien c'est qui. Il a fait de la télé, etc. C'est une vedette. C'est un peu le Ricardo des années 80, 90, 2000. Okay. Puis, pas sûr qu'il aimerait ça que je dise ça, là, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup Ricardo. Là, tout ça, j'ai des affaires que j'aurais pas dit, mais tu peux le garder au montage, ça me dérange pas.
C'est correct.
Ça pour dire qu'on a fait deux livres ensemble. Un pour les sportifs, donc le Soulard des sportifs, où là, moi, j'écris la partie plus théorique, tu sais, pourquoi manger quoi quand on fait tel type de sport, puis les recettes qui vont avec, tu sais, pour différents types d'activités. Puis l'autre, ça s'appelle l'ADN de l'alimentation des Québécois. C'est plus toute l'historique de notre alimentation et aussi toute la connaissance qu'on a sur le lien entre les aliments qu'on consomme puis les maladies chroniques, puis avec des recettes, tu sais, qui fit avec notre historique un peu alimentaire et tout ça de gens. Donc, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis oui, non, j'en ai pas recommandé parce que faut pas trop être obsédé par ça, là, par l'alimentation. Il faut que ça soit plaisant. Alors, moi, la dernière chose que j'ai le goût de lire quand je lis, c'est des livres sur la nutrition.
Oui, non, je suis bien d'accord avec ça. Puis dans ma bibliothèque derrière, j'en ai des fois quand je vais dans des friperies ou les petites boîtes où les gens déposent des livres. Des fois, j'aime regarder. Puis je vais prendre un livre de nutrition à 2-3 $ juste pas pour ma connaissance, mais juste des fois pour savoir bon qu'est-ce qui est à l'extérieur, d'où viennent certaines modes exactement. Mais non, ouais. je confirme que moi non plus, c'est pas les livres de nutrition, j'adore la nutrition, c'est ma passion, mais c'est pas ma lecture de chevet. Donc,
Exact. Mais ceci étant dit, on a ceux qui sont curieux et qui veulent démystifier les effets santé de l'alimentation, bien, c'est sûr que le livre sur l'ADN de l'alimentation des Québécois, bien, j'ai travaillé fort, j'ai fait le survol de toute la littérature qui se fait sur à peu près tout ce qui se mange au Québec. Donc, c'était quand même un exercice intéressant. Puis ça ramène une certaine humilité, justement. Souvent, on ne sait pas ou c'est pas clair. Tu sais, partez pas en peur avec ça. Donc, ça ramène un peu la réflexion à la base.
Super. Bien, je mettrai le nom et le lien vers les deux livres que vous avez mentionnés aussi dans la description de l'épisode. Puis, oh mon Dieu, le Soulard du sportif, j'ai eu le souvenir que c'est un livre que mes parents m'avaient offert à Noël il y a quelques années. Puis, j'avais le mot Soulard, mais je ne me souvenais plus de votre nom. Donc, en tout cas, je vais le refeuilleter avec intérêt.
C'est plus facile à vendre des livres avec le nom Soulard dedans qu'avec le nom Lamarche.
On verra dans quelques années.
Encore une fois, pour rester humble, c'est ça qu'on dit.
Ouais. Tout à fait. Et en terminant, si les gens sont curieux de suivre vos travaux dans les prochaines années, est-ce que, là, j'allais dire Twitter, mais là, je sais que Twitter, c'est plus tant ce que c'était, là, mais bref, est-ce qu'il y a un site web, une page où est-ce qu'on peut suivre ce que vous faites?
Personnellement, moi, non. Je ne suis pas dans cette tendance-là. Je sais que l'entretien se termine, mais je suis un peu sur les breaks, comme on dit en bon québécois, pour faire la promotion des recherches qu'on fait en temps réel, parce que ça vient mêler tout le monde. T'sais, c'est comme vite, on a publié ça, le chocolat à tel effet. Ouais. Donc, non, évidemment, on a nos publications qui apparaissent là, sur les sites, mais c'est pas grand public. Ceci étant dit, au Centre Nutrice, on a une page web où là, on va avoir on a un blog, on a des informations qui sont comme un peu pré-marchées pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, on veut aussi avoir un site où on peut donner de l'information. Donc là, nos recherches vont être un peu traduites pour le grand public dans les prochaines années là, pour faire connaître un peu ce qu'on fait, mais avec beaucoup d'humilité, justement.
Ouais. Puis je pense aussi que Nutri-Québec a une page Facebook où des fois, ils vont publier. Fait que ça, c'est le fun aussi pour le public. Mais je salue malgré tout ce choix-là de prendre le temps avant de... Oui, on veut partager la recherche, la rendre accessible, mais des fois, en nutrition, trop, c'est comme pas assez, puis ça devient juste plus mélangeant. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus.
Ça crée ce qu'on appelle une cacophonie nutritionnelle, puis on a de la pression comme chercheur de faire valoir le fait qu'on est financé puis qu'on ça sert à quelque chose. Mais en même temps, en nutrition, c'est pas comme quelqu'un qui construit des ponts. Là. Les gens mangent trois fois par jour, en tout cas la moyenne. Puis on vient créer de la confusion à chaque fois qu'on dit que telle molécule a tel effet, puis là, le microbiote, puis ci, puis ça, puis là, on passe sur des chiens qui n'ont pas d'allure. Là. Fait que on garde une petite gêne, nous autres, par rapport à ça.
Oui, c'est très sage. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment une super belle discussion sur plein de sujets que je trouve personnellement très, très passionnants, puis que je suis convaincue qu'ils seront tout aussi passionnants pour les auditeurs et auditrices. Donc, je vous souhaite du bon succès pour la suite de vos travaux, puis au plaisir de voir vos publications sur PubMed dans les
prochaines années. Merci. Bonne chance dans ton doctorat, puis félicitations parce que tu es très bien préparé, puis ça a été un plaisir de participer à cette balado.